Bonsoir. La population du groupement Boussanza, territoire de Rutshuru, sous occupation du M23, a alerté le 26 septembre dernier sur l'annexion d'une partie de leur terre, par l'Ouganda. Selon des sources locales, la partie annexée se trouve dans le village Mungo, proche de Bunagana. Les mêmes sources parlent d'une opération de démarcation des limites frontières en cours depuis quelques semaines entre Bunagana et la colline Musenzero. Les Ougandais ont dépassé environ 3 km en profondeur de la RDC, expliquent ses habitants. En réaction, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, a rassuré hier mardi 3 octobre lors d'un briefing avec le gouverneur Jacques Kiaboula que la situation est sous étroite surveillance au niveau du gouvernement central. Et selon Patrick Muyaya, le ministre des Affaires étrangères de la RDC utilise des voies diplomatiques pour obtenir des informations plus détaillées et résoudre cette question délicate. Quel est au faire de cette situation? Nous en parlons ce soir dans ce studio avec Norbert Yambayamba, professeur. Il est directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Monsieur Yambayamba, professeur Yambayamba, bonsoir.
Bonsoir.
Juvenal Munuvo Mubi, avocat, il est député national élu de Walikale au Nord Kivu, cadre de l'UNC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, membre aussi de la Commission de Défense et Sécurité à l'Assemblée Nationale. Maître Munuvo, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs.
Dans ce studio aussi avec nous, le professeur Tubangu Kalala, professeur à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, auteur de l'ouvrage intitulé « La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, géopolitique et droit international ». Professeur, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Au Nord Kivu, une partie du territoire congolais serré annexé à l'Ouganda dans le groupement de Boussanza, c'est précisément dans le village Mungo proche de Bunagana. C'est ce qui ressort d'une alerte faite par les habitants vivant dans cette zone occupée par les rebelles du M23. Ces derniers parlent notamment d'une opération de démarcation des limites frontières qui serait en cours dans la zone située entre Bunagana et la colline Musenzero depuis quelques semaines. Un acteur politique du lieu plaide pour l'implication urgente du gouvernement congolais. On écoute les députés provinciaux. Emmanuel Ngarouyé au micro de Bernard Danyangi.
Depuis le mois d'août, une délégation ougandaise était venue dans le groupement de Boussanza pour pouvoir préparer des lieux où ils vont mettre des bornes. Ce week-end, le vendredi 23, le samedi 24 septembre, pratiquement un mois après, la délégation ougandaise est revenue avec des véhicules pleins de sable. Ils ont commencé à placer de nouvelles bornes. Dans la partie congolaise, ils ont dépassé environ 3 km en profondeur de la République démocratique du Congo dans le groupement de Boussanza. Aujourd'hui, les habitants qui sont des otages de ces agresseurs n'ont plus accès à leur champ parce que c'est désormais devenu une partie ougandaise. Et donc, il pousse encore un cri d'alarme. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de pouvoir, en urgence, libérer les entités occupées par ces agresseurs et que de mauvaises décisions soient corrigées, notamment les problèmes de frontières qui ont été déplacés par les autorités ougandaises.
C'était là le député provincial Emmanuel Ngarouyé. Juvenal Munuvo Mubi, je rappelle que vous êtes avocat et député national élu de Walikale au Nord Kivu. Vous êtes cadre de l'UNC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous êtes aussi membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée Nationale. Vous avez d'ailleurs déposé une question orale avec débat adressée au VPM des Affaires étrangères afin qu'il explique la véritable situation sur les terrains, une partie de la RDC serrée annexée à l'Ouganda. Comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup, Madame Kelly. Merci pour l'invitation. Et j'en profite déjà pour saluer professeur Chibangu et professeur Yamba Yamba qui participent avec moi dans cette émission. Au fait, ceci, c'est dans la suite un peu de l'ambiguïté et du manque de sincérité qu'il y a avec nos voisins de l'Est. Souvenez-vous, l'histoire de l'Est et de la RDC, c'est une histoire d'agression. L'Ouganda, dont on parle aujourd'hui, a déjà été condamné par la Cour internationale de justice pour activité criminelle sur le territoire congolais. Et donc, c'est un peu dans la suite de cela. C'est vrai qu'à un moment donné, en trompe-l'œil, on a comme l'impression que les relations se sont réchauffées, harmonisées avec des conventions qui sont signées, des traités, des coopérations, des cadres de coopération de défense et économique. Mais en réalité, il y a toujours cette hypocrisie. Et raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu ces alertes, il y a les acteurs de la société civile qui m'ont appelé directement pour me parler de ce qui se passe là-bas. J'ai reçu des photos, des images, certaines photos d'ailleurs, on les retrouve même sur Internet.
Qui confirme l'information.
Oui, un député provincial s'exprime, il vient de s'exprimer même, et un son vient d'être balancé. Alors je me suis dit, au niveau national, parce que le rôle du Parlement de la Chambre est liée au suffrage universel direct dans laquelle nous faisons partie, c'est de contrôler. Il y a le vote des lois et le contrôle du gouvernement. Et c'est dans le cadre du contrôle que j'ai initié cette question orale avec débat adressé au ministre en charge des Affaires étrangères. Pourquoi au ministre en charge des Affaires étrangères? Parce que ça concerne un pays voisin, un pays avec qui on a une frontière commune, la frontière orientale, un pays qui a signé des accords de coopération. Parce que ça peut avoir la décision qui sera après examen du dossier, il peut y avoir une incidence et des décisions à prendre par rapport à ces accords-là. À quoi ça servirait de rester en coopération de défense, en coopération économique avec un pays qui nous agresse? Parce que là, on peut bien, un juge pourrait bien se servir des éléments et qualifier ça d'agression. Vous voyez? Et donc, c'est des indices. On a un faisceau d'indices, même si on n'a pas toutes les preuves nécessaires, mais c'est un faisceau d'indices qu'on ne peut pas négliger et qui m'ont poussé en tant que député d'initier cette question orale avec débat, dans l'espoir que les bureaux de l'Assemblée nationale usera de toute diligence nécessaire pour que les ministres en charge des Affaires étrangères répondent, arrivent à l'Assemblée nationale, que je présente ma question, qu'ils répondent aux questions, qu'un débat soit engagé là-dessus et qu'on arrive à proposer des pistes, des solutions par rapport à cette agression ougandaise. Je vois que la voix, l'essence s'est améliorée dans l'entretien.
Oui, voilà, vous l'avez remarqué. Mais une certaine opinion estime que dans ce coin de la République, les frontières de la RDC ne sont pas bien délimitées.
Alors,
c'est normal qu'il y ait parfois des erreurs comme ça.
Alors, il y a ceux qui entretiennent effectivement cette confusion-là. Alors, je parle sous contrôle du professeur Chibangu, qui est ici et qui a écrit un livre monumental. Je dois m'en procurer d'ailleurs. Et je parle sous contrôle, évidemment, du prof Yamba Yamba aussi, qui s'intéresse à la question, de par son travail. Et je citerai aussi des auteurs. Lorsque vous lisez, par exemple, M. Jantin, qui a écrit un livre intitulé « Les frontières congolaises, les frontières du Congo belge, les 1952 », eh bien, il y a un arrangement, la dernière date c'est le 25 juin 1911, il y a cet arrangement belgo-allemand qui a tout indiqué, et il était dit là-bas qu'en cas de désaccord entre les indications qu'il y a sur la carte et les indications qu'il y a dans le protocole, eh bien ce sont les indications qui se trouvent sur la carte qui l'emporteraient. Il y a même des bornes qui ont été posées, il y a 21 bornes qui étaient posées entre la rive nord du lac Kivu et la colline Kabwanga. Tout ça, on peut bien lire ça dans ce livre. Et je pense que dans le livre du professeur Chibangu, il y a plein d'éléments là-dessus. Je ne crois pas qu'il y ait des ambiguïtés. C'est pourquoi des déclarations comme celle de M. Kagame, le président du Rwanda, au Bénin, eh bien, c'est des déclarations qui procèdent d'un certain rêve du Rwanda ancien. Vous voyez, le Rwanda des rois Bugiri, le Rwanda des conquêtes. Mais il y a des frontières issues de la colonisation. Il y a un principe sacro-saint qui parle de l'intangibilité de ces frontières. C'est des frontières qui doivent être respectées. C'est un principe affirmé au niveau de l'Union africaine. Et qu'un pays, si un pays déplace les bornes, et puis l'opération des poses de bornes, ça doit, pour qu'il y ait posage de bornes ou pose de bornes, il faut d'abord qu'il y ait un conflit. Il faut qu'il y ait un différend. Et puis ça ne peut pas être une opération unilatérale. Donc ça ne peut pas être les experts d'un seul pays ou les techniciens d'un seul pays qui font l'opération. Ça doit être un travail concerté entre la RDC
et l'Ouganda pour les cas d'espèce. Mais pour les cas d'espèce, moi je considère qu'il n'y a pas du tout un différent. Il y a eu des différents ailleurs, mais pour les cas de cette frontière orientale, en tout cas le peu d'informations que moi j'ai, il n'y a pas un litige par rapport à cela. Et donc il faut voir, c'est pourquoi moi j'ai dit qu'il faut considérer ça dans les cas de l'agression. L'agression, c'est une intention malveillante qui anime nos voisins. Et ils veulent l'utiliser. Il peut y avoir des moments où ils nous distraient pour dire voilà, tout est harmonisé. Mais en réalité, il y a cette volonté-là d'agresser le Congo. Le Congo est riche. L'Est du Congo est follement riche. Ces pays n'ont pas assez d'espace. Il y a un problème démographique. Même si on ne dit pas des choses clairement dans le sommet. Et puis, ils ne savent pas négocier aussi. Ils ne savent pas négocier. Ils pensent que la manière forte, c'est la bonne, quoi, pour investir le Congo, investir les terres congolaises. Et ils pensent que les principes de terra nullius existent encore. Ils pensent que, voilà, c'est un bien sans maître.
Alors, vous parlez d'agression.
Pourtant, nous pensons que c'est le principe de la souveraineté territoriale qui doit s'appliquer.
Vous parlez d'agression alors que l'Ouganda est quand même allié de la RDC dans la traque contre les EDF. Comment ça peut s'expliquer?
Oui, mais il y a beaucoup de doutes sur les comportements de l'Ouganda. Vous voyez, ces derniers temps, il y a par exemple Bounagana, la prise de Bounagana, on s'est tous posé la question, et même des experts au niveau de l'armée, et même le président de l'Assemblée nationale s'était un peu exprimé avec quelques soucis là-dessus. Et comment se fait-il que Bounagana est tombé si vite comme ça? Parce que Bounagana donne lié directement, pas au Rwanda, à l'Ouganda directement. Et la branche politique militaire du M23, lorsqu'elle était défaite en 2013, ils ont trouvé refuge à Kampala, en Ouganda. Et déjà là, il y avait des inquiétudes. Vous ajoutez à ça les multiples tweets de Muhoozi, le fils de Museveni, et qui affiche une sympathie envers Paul Kagame, qui considère d'ailleurs comme un membre de sa famille élargie. Eh bien, tout ça, si vous corroborez ces éléments-là, eh bien, il y a lieu quand même de douter un peu de la sincérité de l'Ouganda.
Bref, mais tout ceci, j'ai fait tout ceci. Jamais cite officiellement l'Ouganda.
Voilà.
Comme
alors,
son agresseur.
Moi, ce que je veux attirer comme attention, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit naïf avec l'Ouganda. Hein, le Rwanda, c'est clair, il est clairement établi que c'est un pays qui nous agresse. Les Nations Unies en ont rapporté suffisamment de preuves là-dessus. Mais avec l'Ouganda aussi, on ne doit pas être naïf. Pourquoi? Parce que la convoitise, elle est là. Pourquoi ils se sont affrontés, les deux pays se sont affrontés en 2000 à Kisangani, en pleine ville de Kisangani, aux côtés des comptoirs des diamants? Eh bien, l'enjeu est là. Donc, c'est des pays qui ont des convoitises sur nos richesses. Et ils ont eu à le démontrer. L'Ouganda a même été condamné à la Cour internationale de justice. Le professeur Chibangu, plus que nous trois ici, a assez d'éléments. Et il en parlera certainement. Et donc, on ne doit pas être naïf par rapport à cela. Mais ceci n'affecte pas les soucis du président Tshisekedi. C'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir. Il a pratiqué la politique d'ouverture au monde sur le plan diplomatique. Parce qu'il faut quand même affirmer que si le Congo était ouvert au monde au début des années 2000, lorsque Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, on a assisté quand même à une sorte d'isolement vers la fin de son règne. Et lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'était de nouveau l'ouverture, la politique des bons voisinages. Mais attention, notre souci d'être en bonne relation avec les voisins a été surpris. Notre bonne intention, notre bonne foi a été surprise par l'intention malveillante de certains voisins, à l'occurrence le Rwanda, et peut-être l'Ouganda aussi, par rapport à ce qui fait l'objet de notre sujet d'analyse actuellement. Évidemment, il faut des analyses. Il faut que le Parlement débatte. Il faut que les experts du gouvernement débattent. Il faut que les mécanismes conjoints de vérification de frontières de la CIRGL soient saisis. Bref, nous devons ouvrir l'œil et ne pas rester, je vais dire, naïf par rapport
à ce qui se passe. Merci, Maître Juvenal. Professeur Tshibangu Kalala, professeur à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, auteur de l'ouvrage intitulé « La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, géopolitique et droit international ». Ce sujet tombe à point nommé, professeur. Je sais que vous êtes très à l'aise dans ces sujets. Une partie du territoire congolais s'est réannexée à l'Ouganda, alerte la population du groupement de Busanza. Nous sommes là dans le territoire de Rutshuru. Il paraît qu'il y a un problème sérieux des délimitations de frontières dans cette partie de la République.
Merci beaucoup, Madame Kelly. Merci infiniment pour votre invitation. Ça fait longtemps que j'ai reçu.
Exactement, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on t'a reçu dans cette émission.
D'abord, je tiens aussi à féliciter, à remercier mon ami honorable Mounoubo, que je n'ai pas vu depuis un certain temps.
Oui.
Très heureux de le rencontrer ici.
Merci, professeur.
Cette chose. Et le professeur Yamba, qui est le gestionnaire du dossier des frontières, parce que les frontières sont gérées par le ministère de l'Intérieur. Où nous avons une commission technique spécialisée, la commission permanente des frontières. Donc c'est lui le responsable. Voilà. Madame Kelly, comme l'avait dit un historien immense, célèbre, grec de l'Antiquité, Hérodote, eh bien, la géographie et l'histoire sont inséparables. Et donc, cette question implique l'histoire et la géographie. Il faut dire un petit mot sur la géographie et sur l'histoire pour comprendre les choses ici. Et après, le droit. Nous avons une frontière de 817 kilomètres avec l'Ouganda. Une partie avec de l'eau, ce qu'on appelle frontière liquide, et ça fait 186 kilomètres d'eau. Le lac Albert, le lac Édouard, les rivières Lamia, Semliki, etc., etc. Et puis, nous avons la frontière terrestre, donc la terre, ça fait 631 kilomètres. Apparemment, le problème se pose sur la frontière terrestre, c'est-à-dire qu'on nous a pris quelques kilomètres. Donc, c'est sur la terre ferme. Et d'après, peut-être que le professeur Yambayamba va nous donner quelques détails, si je comprends bien, cette question se pose dans la zone de Bunagana, vers Rutshuru, la partie de frontière que nous avons avec l'Ouganda. Parce qu'il y a une localité qu'on appelle Bunagana, et en Ouganda, et au Congo, la même localité. Un peu comme nous avons Aru, dans l'Ituri, de l'autre côté de la frontière, en Ouganda, on l'appelle Arua. Donc nous avons Bunagana qui porte ces deux noms-là, dans les deux pays. Alors, je comprends bien que la question se trouve dans cette zone frontalière de Rutshuru, le petit morceau de territoire du Rutshuru, ce morceau de territoire qui est frontalier de l'Ouganda, mais pas de l'Ouganda, du Rwanda. Parce que dans la zone des trois frontières, avec le mont Sabino. Et donc, c'est dans cette zone-là, peut-être que le professeur va nous donner des détails sur ce qui se passe en réalité. Le problème qui se pose, c'est le problème de déplacement des bornes frontières. J'aimerais signaler que on a déjà fait la délimitation de cette frontière de 817 kilomètres par un traité, une convention entre les deux pays, du 3 février 1915. Donc, depuis plus d'un siècle, 1915, la question ne se pose pas. On a déjà délimité. La délimitation, Madame Kelly, cher auditeur de Radio Capi, la délimitation, c'est la détermination du passage de la frontière dans un document diplomatique, dans un traité. C'est sur papier. Vous dites, la frontière va passer par la rivière Lamia, par la rivière Rutshuru. Rutshuru, c'est le nom d'une rivière. Hein. Bon, la rivière Rutshuru, le lac Édouard, le lac Albert, etc., rivière Semliki. Et donc, passer par telle colline, Ngaboua, Sabinho, etc., etc. Ça, c'est la délimitation. C'est une opération juridique. Mais ça ne doit pas rester sur papier. Il faut que des équipes, des techniciens, des topographes, des géographes, des topographes, des marcatateurs, j'arrive là-bas, des géomètres, des triangulateurs, qu'ils arrivent sur le terrain pour matérialiser la frontière sur le terrain. Pour visibiliser la frontière sur le terrain, pour que les populations frontalières voient les signaux, les repères physiques, pour dire que la frontière passe par-ci. Ce sont des bornes. Alors, les bornes posent un problème, Madame Kelly, depuis 1915. Imaginez-vous, sur une frontière de 817 kilomètres, il n'y a que 64 bornes qui étaient laissées par les Belges. On a complété en 2016, mais cette fois-ci, ce n'est pas dans la région du Nord Kivu où nous avons des problèmes, mais ça c'est vers l'Ituri, à Aru. On a complété des bornes frontières sur une distance de 28 km. Peut-être qu'on pourra en parler de cette émission-là. Et donc, il y a un problème de visibilité de la frontière sur le terrain. Le même problème qu'on a eu à Kayemba en 2007-2008. Je comprends bien qu'aujourd'hui,
qu'il y ait cette réaction de notre société civile, et c'est très bien, et même du député provincial et de l'honorable Mounoubo, d'attirer l'attention du peuple, du pays, pour dire, attention, il y a un problème là-bas. Mais le problème, comme je le dis, on n'a pas fait la démarcation des frontières, donc poser des bornes physiquement sur la terre, sur cette longue frontière de 817 km. Vous prenez par exemple le lac Albert, c'est 142 km. 142 km, Albert. Mais il n'y a aucun repère physique sur le lac Albert pour montrer la frontière entre l'Ouganda et la RDC sur le lac Albert.
Même chose sur le lac Kivu. Donc, quand on suit vos explications, on ne peut pas affirmer ou confirmer que réellement l'Ouganda a pris une partie de la RDC.
Moi, je suis réservé. Moi, je suis dans la science. Hein. Je ne suis pas dans le militantisme. Je fais la science. Nous avons eu le même problème avec Kayemba, Mme Kelly. On a dit à l'époque, voilà, oui, le gouvernement a vendu Kayemba à l'Angola, etc., etc., des tensions, des passions, etc. Mais quand on est allé sur le terrain pour regarder, pour voir si effectivement l'armée ougandaise, disons l'armée angolaise, avait pénétré sur le territoire pour occuper nos villages, mais nous avons constaté, effectivement, que ce sont des Congolais, de bonne foi, qui avaient traversé le système parallèle au sud, qui sont allés s'installer en Angola, pensant qu'ils sont chez eux, qu'ils sont au Congo, alors qu'ils étaient déjà en Angola. Pourquoi? Parce que vous avez la distance entre les bornes que les Portugais, les Belges avaient posées à l'époque, 10 km entre deux bornes. Vous imaginez? Alors les villageois qui sont là-bas, les Tchokoé, les Lunda, qui sont allés, sont en train de chasser du gibier, de l'autre côté, mais ils ne peuvent pas se rendre compte qu'ils ont déjà quitté le Congo, ils sont en Angola. Et le problème a été réglé quand on a envoyé des équipes de techniciens sur le terrain pour le problème. À ce stade, pour revenir au cas qui nous occupe, je ne peux pas affirmer, et je suis d'accord avec l'honorable Mounoubo ce qu'il a dit, il faut qu'il y ait, et avec le ministre Mouyaya, justement, il faut qu'on aille voir exactement sur le terrain.
Parce que nous avons... La localité est malheureusement occupée par le M23. Comment faire?
Ben, nous allons régler le problème. On va régler le problème. C'est pour cela qu'il faut une opération diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères est déjà saisi. Le ministre de l'Intérieur, le gouvernement est déjà saisi. Eh bien, nous avons des organisations sous-régionales qui sont là. CIGRL, nous avons l'Union africaine qui a toute une commission frontière, etc. S'il y a ce genre de problème, eh bien, on va le résoudre de manière technique. Parce qu'on ne peut pas affirmer dès maintenant, ou confirmer, ou infirmer, on ne peut pas dire que la société civile ou le député provincial n'a pas raison, non. On ne peut pas dire qu'il a raison, il faut aller voir sur le terrain. Est-ce qu'on a effectivement implanté une borne? Et si on a implanté cette borne, c'est sur la frontière telle que c'est défini dans le texte. Parce que si on n'a pas respecté les bornes, le tracé de la frontière, c'est facile à repérer. Je vais vous donner un exemple pour terminer là-dessus. Au nord, dans l'Ituri, toujours la frontière avec l'Ouganda, il y avait un conflit autour du marché qu'on appelle là-bas le marché Kampala-Kinshasa. Il y avait un vaste terrain. L'Ougandais prétendait que ce terrain-là lui appartient. Il y avait une rivière, la rivière Ofo, dans mes raisonnements, vers Voura, qui disait, oui, cette rivière, c'est une rivière de l'Ouganda, pas pour le Congo. Mais quand on a fait le travail de reconstruction des bornes qui étaient posées là-bas en 1911 et 1915, surtout, on a fait ce travail en 2016 par les deux gouvernements, on a reposé de nouvelles bornes en respectant le traité dont je vous ai parlé du 3 février 1915, eh bien, on a récupéré la rivière parce qu'on a trouvé que cette rivière au fond, c'est une rivière qui appartient au bassin du fleuve Congo et non pas au bassin du Nil. Et les Ougandais ont accepté. Même chose pour le terrain en question que l'Ouganda a réclamé. Eh bien, on a posé la borne principale là-bas vers ce marché-là, Kampala-Kinshasa, et on a constaté qu'en posant cette borne, suivant le traité, eh bien, le terrain, l'Ouganda réclamé, se trouve bel et bien en RDC et pas en Ouganda. On a récupéré le travail qu'il faut faire, Madame Kelly, je m'adresse à notre peuple et à nos dirigeants, le travail qu'il faut faire, c'est ça la solution, c'est poser les bornes frontières sur les 817 kilomètres. Il faut le faire dans le cadre bilatéral, et Honorable Mounoubou a parfaitement raison, ce n'est pas l'Ouganda seul qui doit venir avec ses policiers, avec ses camions, et commencer à travailler sur les bonnes frontières. Parce que dans le traité, on dit toujours, s'il y a une borne qui a été posée, les bornes paires, qui portent le numéro pair, c'est tel pays qui doit surveiller la maintenance. Les bornes qui portent le numéro impair, c'est tel autre pays, le voisin. Ça doit se faire sur le plan bilatéral. Donc l'Ouganda ne peut pas venir seul, ça c'est condamnable. C'est une violation justement de ce traité qui a bien tracé les frontières. Et c'est tout savoir que est-ce qu'à cet endroit-là, parce que dans les documents que j'ai, suivant mes recherches, on avait posé juste 12 bornes. Bon, depuis le sommet du mont Sabignon jusqu'au mont Gaboua. 12 bornes. En 1911, c'est trop peu. Bon, maintenant, les coordonnées sont là, je les ai publiées dans le livre. Est-ce qu'il s'agit de ces bornes-là qu'on est en train de reconstruire, ou ce sont des nouvelles bornes? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne peut se prononcer en connaissance des causes qu'après une enquête sur le terrain et bilatérale avec les deux États et avec en présence des organisations sous-régionales dont l'Ouganda et la RDC sont membres.
Alors, le professeur Norbert Nyamayamba va nous en dire peut-être un peu plus par rapport à cette situation. Vous êtes professeur et directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Monsieur le professeur, vous avez appris que la population du groupement Boussanza alerte sur l'annexion d'une partie de la RDC par l'Ouganda. Vous êtes au courant de la situation. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette partie du pays?
Merci, merci madame. Je voudrais saluer l'honorable Mounoubou et le professeur Tshibangu qui n'a jamais cessé de nous démontrer de quoi il est capable sur cette question. Et je suis heureux d'être avec eux et que nous puissions débattre sur cette question qui intéresse notre peuple, notre pays. Mais avant d'aborder véritablement la question, je dois vous avouer que nous avons appris, comme tout le monde, même de voir croiser cet étendue de choses, au travers la société civile, au travers le député provincial, etc. Et même pour d'autres voies croisées. Mais je ne voudrais pas me détacher du gouvernement, parce que, croyez-moi, je suis au ministère de l'Intérieur, sécurité affaires coutumières, qui fait partie naturellement de l'équipe gouvernementale. Et celui qui est censé donner, n'est-ce pas, les informations ou la prise de position du gouvernement, c'est le ministre de la Communication. Et Patrick Muyaya s'est exprimé sur cette question. Et s'est abstenu de donner avec émotion les éléments de la situation en attendant que les procédures diplomatiques soient déclenchées. Je tiens naturellement à cette procédure gouvernementale pour avoir des éléments plus concluants, plus consolidants de manière à évoquer cette question. Je voudrais également rappeler qu'en venant ici, je n'ai pas réussi l'ordre de mon chef panafricaniste, certainement du CAB. J'ai estimé quand même, quand vous m'avez appelé, de venir et d'écouter, surtout d'écouter à la fois l'honorable député et le professeur Tshibangu Kalala, qui a fait un travail à ce sujet. Ça nous permet véritablement d'avoir des inputs qui vont aider à la prise des décisions stratégiques du gouvernement. Et moi, à la sortie d'ici, je pense, j'aurai véritablement des éléments. Je voudrais également dire que pourquoi le Rwanda, pourquoi l'Ouganda manifeste ses velléités et de façon récurrente. Je crois qu'il y a moyen de pouvoir réfléchir sur la question. Pourquoi le choix Bunaganda
Pourquoi l'échoir au Touro? Qu'est-ce qui explique cette velléité récurrente d'agresser tout le temps le Congo? Croyez-moi, cet espace géographique, c'est un espace très riche. C'est un espace très riche. Et il y a un minerai aujourd'hui qui fait fureur, qu'on appelle nobium. C'est localisé dans cet espace. Et vous savez, les nobium participent à la fabrication de fusées, dans la stabilisation des fusées. Les coûts d'acquisition des fusées, on l'a dit, il faut une besoin de le répéter, est de 10 milliards de dollars. C'est que très clairement, comme on est dans un processus d'une guerre numérique, chacun joue son jeu. Et chacun veut devenir véritablement un sous-traitant du vautour qui sont identifiés à l'international. Il faut savoir gonfler comme un crapaud. Le terrain devient très fertile, je m'excuse beaucoup, devient très fertile. Même les graines pourries viennent germer. Tout simplement parce qu'on acquise de temps en temps notre pays, n'est-ce pas, d'avoir des frontières poreuses. Et tous les aventuriers viennent.
Mais c'est vrai que les frontières sont comme imposent les frontières de la RDC.
Et donc, quelqu'un qui a fait les études par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas...
Le prof dit sur 817 kilomètres, on a à peine combien 64. De bornes
64 bornes
seulement.
Mais c'est un travail à faire. Et c'est comme ça que cette émission-là doit servir véritablement d'approche pédagogique. Pour que finalement, ceux qui sont dans la chaîne des décisions...
Vous qui êtes dans la chaîne des décisions.
Bien entendu. Mais n'oubliez pas que je reste impérationnel par rapport à ce que je représente en termes de valeur intrinsèque aussi. Donc, je dis ceci, que les bornes sont sous-estimées par rapport à la grandeur, n'est-ce pas, comment on dit, de la frontière. Et il n'y a pas que ça. Parce que les motivations qui poussent les Ougandais aujourd'hui, qui sont censés être nos amis, et l'honorable l'a dit, cette hypocrisie récurrente, explique bien entendu que des hommes et des femmes sont organisés dans une sorte de convergence d'intérêts à l'échelle internationale, qu'on appelle généralement les multinationales, à l'échelle sous-régionale, qu'on appelle tous ces vautours, ces sous-traitants, etc., qui concerne essentiellement les pays voisins. Si aujourd'hui l'Ouganda et le Rwanda de temps en temps reviennent comme pour s'afficher de nous, nous avons combien de frontières? 9. Les professeurs disaient que nous avons 11 frontières internationales. Il en a les compétences pour le dire. Mais c'est gravissime.
Mais professeur, ça fait quelques semaines déjà que la population a alerté sur la situation. Vous avez été saisi sûrement au niveau du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous avez fait?
Mais ce qui est au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais vous savez qui donne des éléments, par exemple, au niveau du gouvernement? Avant que le ministre de la Communication, le porte-parole, puisse justement prendre une décision dans ce sens, donner la position du gouvernement, et donc on lui donne des éléments disponibles. Et donc il a été demandé que toutes les procédures diplomatiques soient mises en branle pour que finalement on puisse avoir de vraies informations, sans contester ce qui a été dit, et le professeur a été très rationnel par rapport à ça, c'est de dire en fait qu'on approfondisse, qu'il y ait une enquête qui se déploie sur le terrain.
Est-ce que le mécanisme conjoint de vérification a été saisi?
Tous ces éléments sont en cours et le ministre qui est interpellé aujourd'hui au niveau de l'Assemblée par le député que nous avons ici et donc donnera tous ces éléments de réponse. Mais n'ayons pas des émotions toxiques. Vous savez, quand il y a un problème et on est agité, on croit tout bien faire. On risque véritablement de taper à côté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question des frontières, c'est une question qui interpelle le gouvernement de la République, au travers ses différents services, etc., qui interpelle également les associations sous-régionales, et pourquoi pas l'association africaine, continentale, qui, en réalité, a comme portion aussi des responsabilités de cette question des frontières. Vous savez, la cartographie, par exemple, de nos espaces géographiques, nous avons quand même des instituts qui fonctionnent dans ce sens, comme l'Institut géographique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prétendre avoir une banque de données qui relève véritablement? Je suis content parce que le professeur a tous les détails. Et si ces détails pouvaient aider à ceux qui ont la décision, justement, de mettre davantage les bornes, de créer une sorte de dialogue interétatique entre les différents états de la sous-région pour cartographier. Et vous savez, aujourd'hui, la digitalisation devient un élément de référence dans ce genre de choses. Et si l'Union africaine, qui a aussi cette responsabilité, et pourtant la question est très récurrente, pouvait aussi s'impliquer pour que finalement on ait des éléments plausibles, rationnels, objectifs, qui permettent de dire que cette frontière, cet endroit appartient à tel ou tel pays. Merci. Mais quand cela ne tienne, ce complot, je ne voudrais vraiment pas insister sur ça, ce complot international, pousse beaucoup de vautours, des agitateurs recrutés, soit à la sous-région, soit à travers le monde, etc., pour déstabiliser, déconstruire le Congo, etc. Encore qu'il faut prendre conscience de ça pour que finalement, on puisse mettre en route un certain nombre de mesures qui répondraient, n'est-ce pas, à la question. Comment pouvez-vous imaginer? Regardez, quand vous regardez la frontière et la police de frontières, on peut les retrouver, par exemple, dans beaucoup d'autres pays voisins. Encore que même si on peut en avoir, il faut la renforcer, il faut la requinquer. Il me semble que ça pose des problèmes. Les comités consultatifs. Vous avez parlé des comités la commission de vérification. Il ne faudrait pas que ça soit spontané. Il ne faudrait pas que ça soit à un moment donné d'une action qui se réalise, etc. Tous ces mécanismes doivent être rendus opérationnels, prendre des mesures, des conclusions concluantes, préventives, qui permettent à ceux qui ont la décision de s'en référer. Et tout cela nécessite un effort, non seulement du Congo-Kinshasa, mais également d'autres pays. Encore que les pays, là, sont animés d'un instinct de conquête, de moyens à l'externe, etc. Et ils trouvent que le Congo, c'est
un éléphant qu'il faut bouger. Professeur Norbert Yamayamba. On va ouvrir le standard pour donner aussi la parole à ces nombreux auditeurs qui nous suivent de partout. On va se rendre à Butembo, dans la province du Nord-Kivu, pour écouter Émile Kangiti.
Émile Kangiti, depuis Butembo. L'Ouganda n'a jamais été un beau partenaire pour la RDC. Il a toujours eu l'agenda d'annexer quelques territoires depuis très longtemps. L'Ouganda doit être donc traité au même titre que le Rwanda.
Honorable Mounoubo.
Oui, je suis d'accord avec M. Émile. Même si je ne suis pas venu ici pour mettre l'Ouganda sur l'autel pour le juger. Mais il faut pas rester naïf, comme je l'ai dit. Et souvenez-vous, lorsqu'il y a eu cet accord militaire des opérations conjointes avec l'Ouganda, moi j'étais très frileux par rapport à ça. Et j'ai eu à les dire devant mes collègues du Nord Kivu, devant le Premier ministre. Je n'étais pas écouté par beaucoup d'entre eux. Mais je crois qu'avec l'histoire, avec les temps, ils me donnent raison. Et ils estiment que j'avais raison. Pourquoi? Parce que l'accord militaire avec l'Ouganda n'a rien produit. Il y avait cet accord militaire, il y avait la promesse de construire des routes, une route transnationale, mais tout ça, ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que c'est toujours difficile de savoir l'intention de l'Ouganda. Qu'est-ce qu'on peut faire comme travail avec l'Ouganda? C'est pas toujours si clair que ça. Raison pour laquelle, au niveau diplomatique, nous devons demander beaucoup plus de clarté. Je voudrais revenir, et là, moi, je crois que c'est une très, très bonne chose dont a parlé le professeur Tshibangu, c'est qu'il y a la délimitation qui est une opération juridique. Maintenant, il y a une opération technique, la démarcation. Mais ce qu'il faut dire, et là, le prof Tshibangu pourrait être d'accord avec moi, selon ma compréhension, ce n'est pas veut dire que cette frontière n'a jamais été démarquée. La démarcation a déjà eu lieu. Il y a des bornes qui ont été posées, peut-être pas beaucoup de bornes, comme on aurait souhaité, mais il y a quelques bornes, quoi, quelques dizaines de bornes. Et donc, on ne doit pas considérer une situation comme s'il n'y avait pas une frontière délimitée et démarquée. Ça a déjà été fait, mais sauf qu'il faut peut-être en multiplier les nombres. Et je crois qu'il y a ceux qui pensent comme ça, bon, l'idée me vient à l'esprit, il y a ceux qui disent, mais finalement, avec le Rwanda et l'Ouganda, c'est des partenaires, il faut peut-être penser à un mur, finalement. Parce que quand ça serait peut-être un processus achevé de bornage, quoi, si on arrivait à un mur. Mais sauf que construire un mur, comme certains le pensent, c'est vraiment archaïque. Moi aussi, je ne serais pas d'accord avec ce genre de situations. C'est pour dire que, et là, je voudrais accréditer ce que je pense, sous contrôle du professeur, que le processus de bornage n'est jamais achevé. Je ne sais pas si je peux être d'accord, il peut être d'accord avec moi. Même si on arrivait à poser 64 bornes, peut-être que après un temps, on aurait les soucis d'en rajouter le nombre. Et donc, et celui qui est animé de mauvaises intentions, ce voisin, même si vous avez une multitude de bornes, eh bien, s'il y a des velléités, ça pourrait toujours se manifester. Raison pour laquelle nous devons faire quoi? Nous devons construire l'armée, hein, nous devons renforcer notre diplomatie, nous devons rester en alerte. Hein, et je crois que des allégations, moi je ne préfère même pas appeler ça comme allégation, des informations comme ça, des indices, des alertes comme ça, eh bien, il ne faut pas qu'on les minimise. Moi, j'étais content que pour la première fois, le gouvernement s'est exprimé à travers le ministre Mouyaya pour dire que la question, elle était suivie et que par des voies diplomatiques, on espérait à une solution. Et tout ça, on souhaite que ça aille vite. Alors, quelles sont les actions à court terme qu'on pourrait bien poser? Je crois qu'il faut que ma question soit examinée rapidement. En tout cas, je le souhaite, que les bureaux fassent diligence. Parce que le professeur Yamba Yamba est d'accord avec moi qu'on attend un peu que le ministre des Affaires étrangères, puisque le porte-parole du gouvernement a parlé des voies diplomatiques, peut-être que le ministre Lutundula pourrait nous en parler davantage. Il faut qu'on fasse la saisine du mécanisme conjoint de vérification de frontières qui émane de la CIRGL. On doit savoir si ça a déjà été fait. C'est des actions à court terme. C'est des actions urgentes à faire par rapport à ces problèmes. Mais il y a des actions à moyen terme aussi qu'il faut poser. Ça serait, à mon avis, redynamiser toutes ces commissions mixtes des frontières. Parce qu'il me semble quand même qu'il y a des soucis, pas seulement à l'Est. Et avec Mouliro vers Mouliro Puerto, il y a aussi un souci là-bas. Quand j'étais rapporteur de la commission de défense, on a même effectué une mission vers là. Parce qu'il y avait quelques militaires zambiens qui avaient même pénétré vers Mouliro. Voilà, donc il faut qu'on redynamise cette commission. S'il y a des cotisations à payer, par exemple, qu'on soit en ordre avec ces cotisations, et puis qu'on mette les techniciens en branle pour qu'ils effectuent des bornages nécessaires ou qu'ils posent des bornes qui suffisent. Parce que, voilà, l'insuffisance des bornes pourrait aussi créer des incompréhensions. Mais il ne faut pas que les Ougandais ou les Rwandais pensent qu'on n'a pas une frontière délimitée. On a une frontière délimitée, on a une frontière marquée. Depuis l'histoire, hein, depuis les années 1911-1915, et donc ces rêves-là des conquêtes, eh bien, il faut le regarder véritablement en ouvrant les yeux.
Merci, honorable Mounougo, professeur Chibangou Kalala. On va aller à Kolwezi pour écouter cet autre auditeur.
Chouk Mouigirwa à partir de Kolwezi. Je ne sais pas si le gouvernement a déjà compris pourquoi l'Ouganda soutient clandestinement les M23. Parce qu'en déplaçant ses bornes vers une partie de Bunagana, le gouvernement ougandais sait très bien que cette partie est contrôlée par les rebelles et qu'il serait difficile pour le gouvernement congolais d'aller déterrer ses bornes ni y renforcer la sécurité. Alors la question que je me pose est celle de savoir si cette partie ne serait pas cédée par les M23 en compensation contre les efforts de guerre. Car presque toutes les rébellions des grandes envergures à l'Est, leurs dirigeants ont déjà eu à conclure ce genre d'arrangement avec les États voisins. C'était le cas pour l'AFDEL et les RCD à l'époque pour ne pas les citer. Mais aussi, est-ce que les démarches diplomatiques vont-elles nous ramener dans un bref délai cette portion de terre annexée par Kampala? Je pense que le gouvernement ougandais a délibérément déplacé les bornes pour jauger la réaction congolaise et demain, ce sera le tour du Rwanda et du Burundi car ces trois pays ont toujours nourri des intentions expansionnistes. Il revient donc au gouvernement congolais de déloger les M23 afin de sécuriser tout le territoire national car c'est une question qui touche directement à la souveraineté nationale.
Alors même si vous êtes ici en tant que technicien, professeur, vous pouvez quand même répondre aux préoccupations soulevées par Chouk.
Oui, oui. Bon, vous m'avez demandé de porter la casquette de technicien. J'aimerais rester là. J'ai un brillant politicien à ma gauche, hein, qui est mieux placé pour répondre à ce genre de considérations et le représentant du gouvernement, même si il a porté des gants. Mais, vous savez, madame, la question des frontières, c'est la question des terres. Et la question des terres est très sensible. C'est vital. Regardez ce qui se passe, la situation aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. C'est un problème de terre. Donc, je comprends que les Congolais, que nous tous, y compris moi-même, que nous soyons très, 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 très
remonter. Lorsqu'on nous dit on a touché un centimètre carré de notre territoire, on a déplacé nos frontières, c'est comme si on nous déclare la guerre. Je comprends cela. Mais il faut dépassionner le problème. Il faut garder la tête froide, garder le sang froid, examiner les choses de manière simple. Cette zone-là, c'est le sommet du mont Savigno. Nous avons 8 volcans, hein, ce qu'on appelle la ligne des volcans. Nous en avons 8. Karisimbi, Nyamulagira, Nyiragongo, Muhavura, Mikeno, Visoke, etc. Au bout, vous avez Savigno. C'est la zone des trois frontières. C'est là où les frontières des trois pays se rejoignent. C'est là où il y a la borne numéro 1 sur cette montagne-là. La borne numéro 1. Et vous descendez, cette colline-là, pour arriver au mont Ngaboa. Et c'est 60 kilomètres. C'est là où vous avez Bunagana, vous avez Rutshuru, etc., etc. J'imagine que ce village dont nous parlons se trouve dans cette zone de frontières terrestres de 60 kilomètres. Parce que nous avons beaucoup de rivières. Hein. Sur les rivières, on ne va pas mettre des bornes sur des rivières. Là, ce sont des bouées qu'on va mettre de visualisation. Je demande dans mon livre, il faut qu'on mette des bouées sur toutes les rivières, sur tous les lacs qui sont des lacs frontières ou des rivières frontières. Les gens ont tué les Congolais tout le temps, on leur arrache des pirogues sur le lac Albert, sur le lac Édouard, justement par la police ougandaise, parce que ces pauvres ne savent pas s'ils sont avec leurs pirogues pour aller prendre du poisson, est-ce qu'ils sont déjà du côté de l'Ouganda, est-ce qu'ils sont toujours du côté de RDC. Mais ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Donc, je vais vous donner un exemple.
Vous pouvez aller pour rapidement, calmer, professeur, parce que nous tournons vers la fin de l'émission.
Oui, pour calmer, pour quelque chose. Nous avons eu un problème que les Belges et les Anglais n'ont pas réglé à l'époque coloniale. On ne l'a pas réglé après l'indépendance entre Mobutu et Kaunda. Il y a à peine 2 ans que le président Tshisekedi vient de régler ce problème avec le président Lungu des Zambie. On a une frontière de 205 km entre le lac Tanganyika et le lac Muero, Pweto, dont vous avez parlé. C'est là où on s'entretuait tout le temps. C'est là où vous avez appris à peine quelques temps que l'armée zambienne était sur notre territoire, les Congolais réclamaient qu'on aille faire la guerre, etc. La Zambie prétendait que les villages que son armée a occupés, c'était des villages qui étaient en Zambie et pas au Congo. Mais comment on a réglé ce problème? Eh bien, on a envoyé une délégation de la SADC, des experts, qui sont allés voir. Ils ont conclu, non, écoutez, messieurs les Zambiens, vous n'êtes pas chez vous ici. Hein. Rentrez chez vous. Vous êtes en RDC, il faut rentrer. Mais comment on a pu régler le problème sur les 205 kilomètres? C'est parce qu'il n'y avait pas de borne depuis l'époque de la conférence de Berlin. Eh bien, le président Tshisekedi, le gouvernement zambien, se sont organisés très rapidement. Et on a commencé à poser des bornes frontières. J'ai publié des images de ces bornes dans le livre.
Et donc, sur
près de 186 kilomètres, honorables, les bornes, il y a des bornes principales, il y a des bornes intermédiaires, donc on peut raccourcir les distances. Hein. Comme là, on a mis un kilomètre, c'est visible. Et donc, sur la frontière, et on a réglé le problème. Et on ne va plus se battre encore avec les Zambiens sur ça parce que c'est visible, voyez-vous. Maintenant, avec l'Ouganda, il y a quelques bornes. Mais c'était quoi, Madame Kelly? C'était ridicule, nous sommes en 1911, 1912, avant la Première Guerre mondiale. Mais les bornes dont on parle là, c'était les amas de terre, comme les caillasses là. Vous ramassez quelques caillasses, quelques graviers, vous faites un tas, vous dites que ça, c'est ça la borne. Mais quand il y a des tempêtes, des intempéries, des eaux, ça va partir. Ça va. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a fait à Arua, ce qu'on a fait dans le Nord Kivu, sur la frontière terrestre entre Goma et toujours avec Savigno, avec le Rwandais, ce que nous venons de faire avec le président Tshisekedi, avec les Zambiens, sur la frontière lac Tanganyika, lac Muero, il faut poser des bornes modernes, sur des distances très courtes qui sont visibles. Nous n'allons pas mettre la police ou l'armée le long de nos frontières pour suivre les choses. Au moins, si nous avons des repères physiques visibles qui seront protégés par nos administrations territoriales. Nous avons la NER dans tous les territoires. Nous avons les administrateurs, nous avons des villageois, des chefs de secteur, des chefs de village. S'ils voient des repères physiques, c'est déjà une protection physique qu'on ne va pas violer notre frontière. Même si l'Ouganda aujourd'hui a déplacé la frontière, ça c'est pour notre ami Joseph, c'est une perte de temps. Parce que la délimitation juridique de la frontière existe. On ne va pas changer, l'Ouganda ne peut pas changer le traité de 1915.
Merci.
Donc, le traité est là. S'ils ont déplacé les bords, on va récupérer le territoire sur le plan juridique et calmement, comme nous avons récupéré la rivière au faux avec le terrain autour de la table.
Merci.
Et eux-mêmes ont reconnu,
professeur.
Non, nous ne sommes pas chez nous, c'était par erreur.
Merci.
Eh bien, nous vous laissons votre territoire.
Donc, il ne faut pas. De vous retirer la parole parce que nous sommes à la fin.
Oui, ben, l'émission. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas invité. J'en profite pour parler un peu beaucoup.
Non, prochainement, on va vous inviter, professeur. On va continuer d'ailleurs cela comme votre conclusion. Professeur Yamayam, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette dernière réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu.
Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni au Nord Kivu. Personnellement, j'ai des nerfs sceptiques face à un aboutissement positif des voies diplomatiques et que parlent les ministres de la communication, vu l'inefficacité de l'action gouvernementale et parlementaire sur les questions essentielles de notre République sous l'actuel régime. Et ce qui est drôle dans cette question, notre gouvernement n'arrive pas à interpeller l'Ouganda, car considéré comme soi-disant partenaire fiable. Je me demande non seulement s'il s'agit d'un complot auquel notre gouvernement participe, mais aussi si le régime actuel est dirigé par le gouvernement ou carrément les coopérants. Parce que face à des questions cruciales comme celle-ci, le temps est presque inexistant et trop occupé par les élections avec une classe politique vénale.
Alors, cet auditeur est quand même assez dur hein, vis-à-vis des dirigeants. Brève réaction, professeur Yambayamba.
Je voudrais saluer notre auditeur qui a parlé, qui a eu un franc-parler. Mais il doit comprendre que la chose publique se gère avec une certaine harmonie, avec un peu de patience, avec stratégie. Ça ne sert pas de courir pour gagner une compétition sportive. Il faut y aller avec plus d'intelligence politique, plus d'intelligence diplomatique, plus d'intelligence militaire. Est-ce que ça pourrait autant dire que le gouvernement actuel, le régime est coopérant? Moi, je dis, c'est trop fort, c'est trop dur. Parce que si vous saviez comment les gens ne dormaient pas pour reconstruire la dignité de notre peuple, pour maintenir nos frontières à l'état où elles sont aujourd'hui, c'est pas si facile. Il faudrait vraiment que, malgré les difficultés qui sont les nôtres, que notre peuple soit derrière notre gouvernement. On ne peut pas, et on l'a si, on l'a répété, et pas le besoin de le dire, combien le chef de l'État s'est investi avec son gouvernement pour construire un climat de paix au niveau de la frontière. Vous savez combien on a demandé à ce qu'on puisse avoir même des projets fédérateurs intégrateurs avec nos voisins. Moi, je pense que il y a moyen de réfléchir. De tout le temps, certes, on a connu le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, il y en a 9, hein, je continue à le répéter.
Et vous estimez que la solution diplomatique va porter ses fruits?
Et il y aura une solution holistique, dont la diplomatie. Et il faut savoir gagner sans combattre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait utiliser la diplomatie, le dialogue, pour convaincre l'interlocuteur. Et s'il ne comprend pas, il y a le package destiné, c'est pas à l'action militaire. Si cela est possible. Vous voyez, donc, maintenant, quelque chose qu'on peut se gagner sans combattre, eh bien, vous voulez gagner en utilisant le muscle, le ring, etc. Donc, le gouvernement est fondamentalement africain, vous savez. Le régime croit et continue à croire que l'Afrique, dans l'unisson, est capable de relever le défi. Et les problèmes sont pendant, partout en Afrique. Et si on doit avoir des problèmes particuliers entre nous, ça nous déstabilise. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut prioriser d'abord les contacts, la diplomatie, ramener le pays voisin à la raison. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place naturellement sur cette question. Et il y a des mécanismes également de vérification. Et donc, on va travailler dans cette perspective. Mais si dans l'hypothèse,
les choses n'ont pas l'air de marcher, où les gens ne comprennent pas la nécessité de ce que peut représenter nos relations entre pays africains voisins. À ce moment-là, c'est pas pour rien que nous avons des militaires, c'est pas pour rien que nous avons les services de sécurité, etc.
Merci.
On va les actionner. Mais il ne faut pas, du coup, au début de l'action, sans savoir les tenants et les aboutissants, c'est dire non, nous faisons la guerre.
Merci,
non.
Professeur Norbert Yambayamba. Maître Juvenal, 30 secondes. On n'a plus de temps.
Moi, je crois que ceci m'impose, ce débat m'impose aussi à évoquer une autre idée. Il faut tout un plan de réformes et de migrations. Hein, à République démocratique du Congo. Et cela passe par un état des lieux qu'il faut dresser de nos services, de nos frontières, de tout ça. Il faut moderniser les services, motiver les personnels, équiper, il faut des équipements modernes de surveillance. Ça, c'est très important. Et ça, ça fera que des agents, par exemple, de la DGM, qu'on ne les retrouve pas éparpillés à l'intérieur, comme à Walikale, avec des barrières. Hein, des agents comme ceux de la DGM devraient se retrouver en principe le long de nos frontières, modernisés. Merci. Moi, je crois que c'est important, un tel plan financé par le gouvernement pour changer l'image de notre administration française.
Merci, maître Juvenal. 30 secondes, on n'a plus le temps.
Alors, je voudrais simplement calmer les professeurs qui disaient qu'il faut des repères physiques. Oui, il faut des repères physiques, mais cela n'explique pas une police de surveillance.
Merci, professeur Yambayamba, dialogue en congolais. C'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.